m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, en effet, vous êtes bien sûr Radio Courtoisie dans l'émission de Restons Courtois, l'émission de débat chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Au programme ce soir, 2 heures entre le droit et la table, entre la mise à mort et le festin. Et oui, la France se raconte aussi bien dans ses lois, souvent uniques, que dans ses mœurs. Alors on va recevoir Grégoire Pupin, que vous commencez à bien le connaître, qui est le directeur général du Centre européen pour le droit et la justice, parce que en effet, la loi qui autorise l'euthanasie ou l'aide à mourir, donc à savoir le suicide assisté, va peut-être être votée, même probablement malheureusement, ce mercredi 15 juillet, d'ici quelques heures, en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Alors le Premier ministre Le Cornu a annoncé avoir saisi le Conseil constitutionnel, Gérard Larcher avant lui également, on se demande ce qu'ils n'ont pas fait avant, bref, on va parler de tout ça avec Grégoire Pupin. Et à 18h30, eh ben, on reçoit Jonathan Sixou, vous savez, on l'avait déjà reçu il y a quelques mois quand il avait sorti son livre « Triompher en festin » chez Perrin, une histoire de la France à travers ses repas. Ben, on va reparler de ça, puis on va essayer de revenir sur l'histoire, puis se projeter sur l'avenir, parce que le repas, la gastronomie, ne reste toujours politique, mais devient en plus idéologique aujourd'hui. Vous savez que le canon français, avec les véganes, avec tout ça. Donc on va reparler d'histoire et puis regarder un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Évidemment, chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission par courriel à courtoisie@rc.fr et également par téléphone. Vous pouvez poser vos questions à nos invités ou faire des remarques. Nous les lirons à l'antenne. Grégoire Pupin, bonjour.
Bonjour Arthur de Vatrigan.
Bon bah encore là, parce que la loi est toujours pas votée. Alors tant qu'elle est pas votée, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, là il semblerait que ça soit la dernière fois, en tout cas elle devrait être... elle est soumise au vote définitif, en lecture définitive aujourd'hui, d'ici ce soir. Il y a toujours des rebondissements. En effet, le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui paraît-il était contre la loi, mais Macron lui a dit « faut l'accélérer », il avait dit « oui chef », finalement a saisi le Conseil constitutionnel, et paraît que c'est une initiative personnelle. Gérard Larcher, qui, je rappelle, est le président du Sénat, avait également saisi le Conseil constitutionnel. Donc, bon, malheureusement, il semblerait quand même que la loi va être votée définitivement. On n'est jamais à l'abri d'un miracle, nous prions encore. Mais même si elle est votée, il peut se passer des choses. Alors on va revenir avec vous sur tout ça. Et puis surtout, j'ai vu beaucoup de pro-euthanasie, la DMD et tous leurs proxys, commencer un peu à avoir peur et à lancer des contre-offensives pour, je cite, « débunker les lobbies ». Ça me fait marrer quand les francs-maçons parlent de lobbies, c'est toujours amusant. Les lobbies des eaux, donc probablement vous, Grégoire Pupin, qui est quelques-uns. Et donc je vous proposerai qu'on débunk leur débunkage, parce qu'il y a beaucoup de fausses vérités qu'ils assènent, et sait-on jamais, peut-être que des députés qui hésitent encore, ou qui ont le doute, nous écoutent, et donc si on peut leur filer un petit éclairage, et si avant le vote, pourquoi pas sauver leur âme, ça pourrait toujours servir. Alors, Grégoire Pupin, première question, pourquoi, à votre avis, le Premier ministre Sébastien Lecornu a saisi le Conseil constitutionnel, alors que en tant que Premier ministre, il pouvait très bien ne pas accélérer le calendrier de cette loi.
Écoutez, peut-être pour ménager la chèvre et le chou, ça veut dire suivre les instructions d'Emmanuel Macron qui a exigé du Premier ministre qu'il accélère le calendrier législatif, alors que le Premier ministre avait plutôt l'intention inverse. Dans le contexte, en partie notamment, de la visite du pape en septembre en France. Donc, premier point, l'insistance du président. Deuxième point, le Premier ministre a indiqué qu'il n'avait pas complètement la main sur tous les membres de son gouvernement. Vous savez, il y a eu un débat qui est toujours présent sur la liberté des établissements confessionnels. Le Premier ministre avait donné la garantie que le gouvernement allait soutenir cette demande. Et finalement, le ministre, pendant la séance, ne l'a pas fait.
Je rappelle à nos auditeurs, ce qu'on vous dit d'établissement confessionnel, c'est par exemple les petites sœurs des pauvres qui s'occupent des malades et qui, si la loi est votée telle qu'elle aujourd'hui, seraient contraints de donner la mort, ce qu'elles ne feront évidemment pas, et donc ça risque de poser un gros problème.
C'est ça, donc c'est l'un des points d'achoppement les plus vifs. Et donc, M. Lecornu avait, semble-t-il, donné sa parole, s'était engagé sur le fait que le gouvernement soutiendrait un amendement respectant la liberté des hôpitaux et des maisons de retraite confessionnelles, en particulier catholiques. Or, en séance, il s'est avéré que ça n'a pas été le cas, ce qui a donné l'occasion, ce qui a provoqué un article, une tribune publiée par Mgr Rouget, l'un des évêques, l'un des principaux évêques en France en charge de ce sujet, qui a parlé dans le Figaro de trahison, hein, pour dire voilà, le gouvernement n'a pas tenu sa parole. Voilà. Donc le Premier ministre, manifestement, il est contraint par le président, par les limites de sa propre autorité sur son gouvernement. Il n'a pas voulu démissionner. Moi, je pense qu'il aurait gagné en stature, hein, d'homme d'État s'il avait démissionné. Pour le peu qui reste en plus, hein, de gouvernement, puisque le gouvernement changera après l'élection présidentielle. Étonnamment, il s'accroche à son poste de Premier ministre. Mais voilà, maintenant, il a annoncé, c'est une bonne nouvelle, vouloir saisir le Conseil constitutionnel pour demander au Conseil, dit-il, de rééquilibrer.
Alors, j'ai lu que c'était trois points précis qu'il souhaite soumettre aux, entre guillemets, sages. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ces trois points ?
Alors, je ne les ai pas complètement en tête, mais il y a celui de la liberté de conscience, précisément, notamment des établissements, donc celui dont on vient de parler. Je crois qu'il y a celui du délai.
Le délai de rétractation du malade, donc 2 jours voilà, de rétractation, ça, 2 jours seulement.
Et le troisième, je ne sais
pas. Et puis, les établissements de santé, justement, qui refuseraient de pratiquer l'aide à mourir ou l'euthanasie ou le suicide, bref. Donc voilà, c'est ces trois points-là. Qu'il va soumettre au Conseil constitutionnel. Et alors, quelques jours avant, c'était le président du Sénat, Gérard Larcher.
Voilà, alors là, c'est très rare. En fait, il faut quand même dire aux auditeurs, c'est très rare. Il est très rare, d'abord, que le Premier ministre saisisse le Conseil contre une proposition de loi soutenue, quand même, par son gouvernement. Donc, c'est un fait totalement extraordinaire, qui n'est pas du tout dans l'usage. Donc, c'est important. C'est un signal important. Deuxièmement, il est aussi très rare que le président du Sénat saisisse le Conseil sur un tel texte de fond. Et donc, il a déclaré donc il a son intention de saisir. Il en a le pouvoir. La Constitution lui donne le pouvoir, ainsi qu'au Premier ministre, de saisir le Conseil à titre personnel. Donc, ils n'ont besoin de demander l'autorisation à personne. Et de la même manière, M. Larcher donc va soulever. Plusieurs points, il n'a pas, à ma connaissance, précisé lesquels, publiquement encore, mais il va soulever plusieurs points. Et je pense qu'on peut penser qu'il évoquera la question de la dignité, du rapport entre la dignité et la liberté, la question de la liberté des établissements, la protection des droits, etc. Voilà, parce que ce texte est vraiment radical, je le répète. Je pense que, en fait, l'Assemblée nationale, dont le processus législatif n'a pas eu de frein. Ils sont allés le plus loin possible, extrêmement loin. Il n'y a pas eu de frein. Le Sénat s'est opposé à 3 reprises, mais ça n'a servi à rien. Et donc, comme il y a une majorité à l'Assemblée, ils sont allés le plus loin possible, et au point d'effrayer le président du Sénat, le Premier ministre, et maintenant de renvoyer la balle au Conseil constitutionnel. Le Conseil va aussi être saisi, très certainement, par un groupe de sénateurs et par un groupe de députés. Et donc, il y aura au moins 4 saisines du Conseil constitutionnel si le texte est adopté ce soir. Donc, 4 saisines, donc c'est important. Maintenant, le Conseil, il est ce qu'il est. Ça veut dire que, comme vous le savez, il est présidé par Richard Ferrand, qui est un proche d'Emmanuel Macron. Il est composé de, d'anciens politiques qui ont pris des positions sur la question de l'euthanasie précédemment. Donc le Conseil, évidemment, a des limites. Et on ne peut pas attendre du Conseil constitutionnel qu'il révolutionne l'ensemble. Mais par contre, il a clairement le devoir d'assurer le respect des principes constitutionnels. Et donc, ce sera une nouvelle phase qui va ensuite s'ouvrir avec ces saisines du Conseil.
Rémi Carlu.
Oui, on a appris ces derniers jours que le pape Léon XIV avait échangé par téléphone à plusieurs reprises avec Emmanuel Macron. Peut-on imaginer que cette saisine du Conseil constitutionnel par le cornu ait été en quelque sorte obtenue par le pape à travers ses coups de fil afin d'obtenir par les juges et par le Conseil constitutionnel ce que le cornu n'a pas pu obtenir visiblement par le jeu parlementaire, notamment sur la question de liberté de ses établissements et donc question subsidiaire. Puisque vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel est peuplé de macronistes, peut-on imaginer une influence directe du président sur leurs décisions futures par des coups de fil, par un petit coup de pression, peut-être pour obtenir des allègements sur ces points, ou pas du tout?
Alors, la question de M. Le Cornu, pourquoi est-ce qu'il a décidé d'intervenir? Je pense que c'est sa conscience personnelle. Il peut décider seul. Donc, encore une fois, ça ne dépend pas de... En théorie, d'Emmanuel Macron, ça ne dépend pas des membres de son gouvernement. Ensuite, bien sûr, ça lui permet quand même de se recentrer un peu politiquement. On l'a quand même beaucoup accusé de lâcheté. Donc là, ça lui redonne un petit peu de crédit. Donc je pense qu'il y a, entre les deux, comme pour tout homme politique, une dimension personnelle et puis une dimension politique. Est-ce que M. Macron a... Non, je ne pense pas du tout qu'Emmanuel Macron ait quelqu'un intérêt à donner raison ou à satisfaire le pape. Je pense que les conditions de la venue du Saint-Père ont probablement été discutées en amont. Moi, ma question, c'est est-ce que les évêques vont se prononcer davantage dans le cadre de la saisine du Conseil constitutionnel? En tout cas, la question de la liberté des établissements, elle est vraiment centrale pour les catholiques, mais aussi pour les juifs. En Alsace, à Strasbourg, où j'habite, je connais bien la communauté, et la communauté juive a aussi des maisons de retraite confessionnelles, et eux aussi ne veulent pas pratiquer l'euthanasie. Donc ce n'est pas une question que catholique, hein. C'est transversal. Voilà, donc ce sera l'un des points principaux, je pense, sur lesquels on attend le Conseil constitutionnel.
En tout cas, l'Église, c'est vrai, on peut peut-être attendre plus, en tout cas des évêques, je veux dire, plus de prise de parole, mais ils sont présents en tout cas, il y a des tribunes, ça râle, on découvre grâce à différents propos tenus soit par des prêtres, soit par des évêques, qu'il y a beaucoup plus de catholiques qu'on pensait. Et beaucoup de gens, Jean-Luc Romero en premier, d'autres disent comment ça, on va être interdit de communion, qu'il y a le 11. C'est-à-dire, au nombre de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir communier s'ils votent la loi, je me dis les églises en fait sont bien plus remplies que je ne le vois, ce qui est assez intéressant. Et il y a eu également cette scène assez drôle et tragique en même temps de Philippe Vigier, député, je me demande s'il n'a pas été co-rapporteur de la loi à un moment, qui se retrouve dans son bled à la messe, et le prêtre, évidemment, sujet d'actu, et de toute façon pour ceux qui vont à la messe régulièrement, à chaque homélie et à chaque prière universelle, on parle de la loi sur la fin de vie. Rappelle la position léguée sur le sujet. Philippe Vigier qui s'était illustré il y a 3 ans en expliquant sur les lois de bioéthique qu'il fallait traquer les fœtus atteints de trisomie. On appelle ça juste l'eugénisme, mais bref... Et notre époque, des gens qui parlent allemand disaient la même chose pour d'autres personnes. Et il s'était plaint et a demandé à l'évêque des excuses et l'évêque l'a envoyé paître. Donc, quand on a des évêques en ce moment courageux, ce qui est assez rare, il faut les féliciter. Donc, monsieur les hommes d'église, continuez comme ça, on vous encourage. J'avais une autre question, on voit quand même vous dites que c'est une loi qui est portée par le gouvernement. Mais au sein même du gouvernement, on voit des gens qui changent de position. Par exemple, Aurore Berger, qu'on ne peut pas cataloguer dans les grandes femmes politiques très courageuses et qui ont des positions très affirmées, était pour la loi il y a quelques semaines, voire quelques mois, et aujourd'hui s'est déclarée contre. L'ancienne ministre de la Santé, je ne me rappelle plus son nom, je la confonds avec celle de la rapporteure du temps...
Buzyn,
voilà. Mmh. Qui était pour, s'est prononcée contre. On voit beaucoup d'évolution. Et des évolutions dans des temps courts. Hein. Il y a eu des politiques, que ce soit des ministres ou des députés, qui ont changé d'avis lors du dernier vote. Mais entre le dernier vote et aujourd'hui, il y a encore des politiques qui changent d'avis. Est-ce qu'il y a un espoir que finalement les 60 voix d'écart qu'il y avait lors du dernier vote, soient comblées ce soir ? Ou on va pas donner de faux espoirs aux gens ?
Il y a toujours un espoir, et puis on ne sait pas qui sera dans l'hémicycle. Est-ce que tous les députés seront là? Est-ce qu'il y aura des absents? Voilà, c'est vrai que du point de vue humain, l'espoir est très très faible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des changements de position. En Alsace, il y a eu par exemple Théo Bernhardt, de la même manière, un député qui explique là être en train de changer d'avis. Alors, est-ce que les prières ont certainement eu un rôle, les arguments aussi. Mais encore une fois, la raison de fond, je pense, de cela, c'est que les députés ont largement voté ce texte par mimétisme, par fascination, fascination de pouvoir, parce qu'ils étaient convaincus que l'euthanasie, le droit de mourir, est un grand progrès social. Et donc, ils ont voté par idéologie sans regarder le détail du texte. Et c'est à force de leur montrer le détail du texte, sa radicalité, que certains députés sont devenus un peu plus vigilants et ont ouvert les yeux et ont compris qu'ils devaient au moins s'abstenir, si ce n'est voter contre. Voilà, donc le changement, je pense qu'il est... on l'a vu au fur et à mesure des votes, il y a eu de moins en moins de députés favorables, de plus en plus d'opposition. C'est le résultat de l'excès même de ce texte. Et donc ce texte est dans l'excès, même pour les promoteurs d'un droit général à l'aide à mourir. Et c'est pour ça qu'il sera très certainement censuré par le Conseil constitutionnel, au moins en partie s'il est voté. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, l'écart va évidemment encore se resserrer. Voilà.
Alors la séance a débuté il y a 2 minutes précisément. Le gouvernement est en train de prendre la parole. Et ensuite, ce sont les différents groupes qui vont se succéder à la tribune pour parler, puis le vote aura lieu. Donc le vote aura lieu pendant notre conversation.
Vers 19h apparemment.
Vers 19h, bon, on croise les doigts. Marc Aubrégon.
Oui, j'ai lu ce matin un papier de l'ineffable Paul Quignot de Libération qui disait que la meilleure preuve que la loi est acceptée par les Français, par l'opinion publique, était qu'il n'y avait aucun mouvement populaire de type manif pour tous dans les rues. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affirmation ?
Vous allez l'énerver, là. Il est énervé, là.
Non, ce que j'en pense, c'est que ça, on en a déjà parlé, c'est un choix délibéré, je crois. On aurait très bien pu, enfin, il aurait pu y avoir un mouvement de ce genre. Ça a été discuté par les associations militantes, engagées, et le choix a été fait de répondre, non pas dans la rue, mais le plus possible au Parlement, dans la presse. Et donc d'essayer d'avoir un débat rationnel. La crainte était qu'en faisant une grande manif, ça ait pour effet de polariser encore plus le débat, et donc de fermer les députés, les parlementaires, de fermer leur capacité d'analyse, d'écoute, de réflexion. Donc l'idée était d'avancer avec des arguments d'analyse rationnelle, de rencontrer, de faire rencontrer que les parlementaires rencontrent des médecins, des associations, les religieuses, etc., pour les convaincre, un à un, voilà, plutôt que de refaire une grande polarisation.
Parce que je pense que le problème, c'est que les Français comprennent mal, en fait, l'enjeu vraiment de cette loi, notamment la vérité tellement escamotée, notamment par la simple suppression du mot euthanasie, qu'en fait, le Français moyen comprend très, très mal, en fait, pourquoi, à la limite, cette loi est néfaste. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un manque, vraiment, la vérité est escamotée, oui. En fait.
Oui, non, vous avez raison. En fait, ça fait des années, moi, que je travaille sur ce sujet. J'ai vu à quel point, au départ, l'opinion publique n'était pas intéressé, ne comprend pas la profondeur du sujet. Et encore aujourd'hui, les personnes ne comprennent pas vraiment où ce sujet, où cette loi nous emmène. Au plan non pas individuel, mais au plan social. Donc c'est là la force des militants de l'euthanasie, c'est qu'ils ont réussi à simplifier à outrance le sujet en parlant de droits individuels, de liberté individuelle, en prenant quelques cas sensibles au plan émotionnel, mais en escamotant l'enjeu réel qui est la transformation que cette loi va générer dans notre société. Au même titre, je dirais, que la loi sur l'avortement a profondément changé la société française, eh bien là, la loi sur l'euthanasie changera aussi profondément, sauf qu'elle touchera peut-être encore plus de monde que la loi sur l'avortement.
Sauf que l'avortement, malheureusement, peu de gens ont vu le changement dans la société française, et c'est même les ultimes, pour reprendre le terme de la DMD, arguments qui sort ces derniers jours en disant ceux qui votent l'euthanasie sont ceux qui étaient contre l'avortement, c'est bien la preuve que vous êtes des salopards d'intégristes d'extrême droite, et regardez l'avortement, c'est un progrès social qui est aujourd'hui admis par tout le monde.
En fait, ils ont pas complètement tort, en fait, hein, parce que les promoteurs de l'euthanasie sont historiquement les promoteurs de l'avortement, c'est un seul et même mouvement d'idées. Au départ, ils disent, hein, les grands fondateurs de l'ADMD et autres, Pierre Simon, fondateur de l'ADMD, était aussi fondateur du planning familial français. Et lui, il disait qu'il faut gérer la qualité de la vie à l'entrée dans l'existence et à la sortie. Et donc, avorter les enfants handicapés, pour eux, c'est la même chose que euthanasier les vieillards séniles.
Alors, je reviens juste sur le Conseil constitutionnel. Si la loi est adoptée définitivement ce soir, le Conseil constitutionnel donc, va être saisi au moins deux fois. Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les délais ? Comment ça fonctionne ?
Alors, si le texte est voté ce soir, les parlementaires et les saisissants, comme on dit, donc, doivent saisir le Conseil assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le président pourrait faire un coup en promulguant la loi immédiatement.
Ah.
Et donc, en fait, il pourrait couper l'herbe sous le pied du Premier ministre, du président du Sénat, des parlementaires, en promulguant la loi.
Alors, ça va être quand même compliqué, là, après l'annonce de Gérard Larcher, voilà. Et l'annonce de Le Cornu. Alors, Emmanuel Macron est capable de tout, c'est pour ça qu'on... c'est Emmanuel Macron, mais ce serait quand même osé, quoi.
Voilà, ce serait osé. C'est pourquoi... mais c'est quand même... possible.
C'est possible avec lui.
Hein.
Ah oui.
Et donc, les saisines doivent être déposées rapidement. Généralement, ça s'est déposé dans les 48 heures qui suivent le vote définitif, donc d'ici la fin de la semaine. Ensuite, se posera la question de la composition du Conseil constitutionnel. Certains membres du Conseil ont pris déjà des positions publiques sur l'euthanasie. Alain Juppé, on le sait, s'était déporté. Pour ce sujet, donc il y aura un enjeu, on aura l'occasion d'en parler le moment venu. Et puis ensuite, le Conseil constitutionnel aura un délai maximum d'un mois pour prendre sa décision.
Donc ça nous amène au mois d'août.
Ouais, mois d'août, dans un mois, vers le,
ouais, voilà, le 15 août,
Vers le 15 août, exactement, pour la fête nationale.
Bravo. Mais juste le 15 août, mais moi, si je suis bougrement tordu, que j'ai mes accès rue Cadet et que j'appartiens à la DMD, je me dis le 15 août, tout le monde s'en fout, tout le monde en vacances, le Conseil constitue pourra rendre ses conclusions, ça va déranger personne.
Exact.
D'accord.
En fait, non, mais tout est fait. Vous savez, ces lois, c'est toujours fait au milieu de l'été ou alors entre Noël et Nouvel An. Donc, c'est tout à fait habituel. La presse, les journalistes sont en vacances, les Français sont en vacances, donc non, c'est effectivement tout à fait prévisible. Et dans ce cas-là, donc décision, on verra. Moi, je pense fermement que le Conseil va censurer la loi, au moins en partie. Et donc là, on verra ce qui va sortir de cette décision. Est-ce qu'il faudra repasser à l'atelier, est-ce qu'il faudra renvoyer le texte, il faudra le modifier, enfin voilà, donc ce sera quand même ouvert encore, il y aura encore quelques points à ce moment-là, et ensuite viendront les décrets d'application, c'est-à-dire que le gouvernement doit rendre des décrets, prendre des décrets sur la question de la substance létale, sur différents sujets de procédure, mais qui sont quand même importants, comme notamment la forme de l'expression de la volonté de mourir. Et là, donc, le gouvernement va adopter et prendre ses décrets et qui pourront... Donc ça, on rentrera dans une phase, encore une fois, de contentieux où ces décrets pourront être contestés. Donc c'est malheureusement le tableau et la venue du pape en septembre qui, j'en suis sûr, parlera fermement de cela parce que l'opposition à l'euthanasie et au suicide assisté, c'est une position ferme de l'Église catholique. Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae, avait engagé l'infaillibilité pontificale sur le rejet de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel les catholiques peuvent avoir des opinions personnelles. Mmh. Voilà, c'est obligatoire, si on est catholique, de refuser ces crimes, ainsi que le décrit l'Evangelium Vitae, et donc le pape le redira très fermement. Voilà, donc ce sera à ce moment-là aussi l'enjeu des établissements confessionnels. Est-ce que le pape va peut-être les visiter? En tout cas, il aura un mot pour ces établissements.
Rémi Carluch.
Oui, mais j'ai une question sur la saisine du Conseil constitutionnel. On a parlé tout à l'heure des trois points qui pourraient, dans ce texte, dans son état actuel, intéresser le Conseil constitutionnel. Comment fonctionne cette saisine? Est-ce que quand on saisit le Conseil constitutionnel, donc que ce soit Gérard Larcher, le Premier ministre, des sénateurs, des députés, on lui soumet certains points précisément sur lesquels il doit regarder, ou est-ce que dès qu'on le saisit, il regarde l'entièreté du texte et est donc susceptible de retoquer d'autres points que les trois mentionnés?
Ça dépend en fait qui fait la saisine. Pour les députés et les sénateurs, ils doivent être très précis dans les points qu'ils soulèvent. Donc ils font la liste et ils expliquent à chaque fois pourquoi telle disposition de la loi est contraire à la Constitution. Par exemple, le fait de priver les proches du droit d'exercer un recours contre la décision du médecin, c'est contraire à la Constitution. Pourtant, c'est dans le texte. Vous voyez ? Donc il y a des dispositions qui sont manifestement contraires à la Constitution. Dans ce cas-là, il faut les viser et il faut faire une référence à la jurisprudence du Conseil ou à la Constitution ou à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. Donc ça, pour les députés et les sénateurs, il faut être précis. Donc ça fait des saisines qui peuvent être très longues et le Conseil constitutionnel doit répondre normalement à toutes les questions. Ensuite, pour le Premier ministre et le président du Sénat, eux, c'est différent, ils ont une grande autorité. Et donc, ils peuvent être plus généraux, mais ils peuvent aussi quand même viser certains points précis. Et dans ce cas-là, leur saisine, les points qu'ils visent dans leur saisine, obligent vraiment le Conseil à y répondre de façon précise. Voilà, parce que le Conseil ne peut pas ignorer une saisine du Premier ministre sur certains points. Voilà. Donc, ces saisines-là vont effectivement vraiment obliger le Conseil à statuer de façon approfondie sur les points visés.
Alors, nous avons beaucoup de messages d'auditeurs. Il y en a un qui nous précise, ce sont les francs-maçons qui sont à l'origine de la loi sur l'euthanasie qui va être votée à l'Assemblée. Il faut lire le livre d'un ancien franc-maçon, France Maçonnerie et Politique, Liaison Dangereuse, paru en 2023 aux éditions Artege. Bravo à Grégor Pupinck. Voilà, il y a des auditeurs qui vous aiment bien, c'est toujours ça de gagner. Je reviens juste sur le délai, parce que c'est pas une loi comme les autres. Si la loi est promulguée, décret, tout ça, il me semble quand même qu'il va falloir changer le code pénal. Il y a des choses qui vont rentrer en contradiction avec d'autres lois, et notamment sur tout ce qui est le droit de tuer ou non-assistance à personne en danger. Est-ce que la loi peut être votée, promulguée et appliquée telle qu'elle sans changer d'autres lois? Sinon, je me dis, au tribunal, ça va être assez folklore.
Oui, parce que la loi prévoit en fait une exception à l'incrimination. Donc elle peut... Oui. En fait, le gouvernement travaille déjà à la mise en œuvre de la loi avant même son vote. Je vous ai dit qu'un certain nombre de décrets d'application doivent être pris par le gouvernement. En fait, ça fait déjà longtemps qu'ils y travaillent. Donc ils sont vraiment dans les starting blocks pour promulguer la loi et la mettre en application le plus vite possible. Alors bien sûr, il faudra quand même un peu de temps pour certains détails de la loi, mais je pense que très rapidement, les francs-maçons, comme vous dites, là, les promoteurs de la loi pourront aller faire la fête autour du premier cercueil qui aura bénéficié de cette loi.
Payé par le CESE avec le ministre du délégué au Parlement qui évidemment n'a pas organisé deux cocktails tout en demandant quand même s'il y avait des problèmes alimentaires ou si des gens bouffaient du gluten, étaient allergiques au gluten
lequel,
ou pas.
Lequel est de profession, comme vous le savez peut-être,
directeur d'EHPAD.
Directeur d'EHPAD, ce qui est réjouissant.
Oui, ce qui est assez sympathique. Et tout son EHPAD est parti. chers auditeurs, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Grégor Pupinck, parce que vous le savez, la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté est donc en lecture définitive aujourd'hui. Le gouvernement a commencé à prendre la parole. Les groupes vont se succéder, donc ça va être voté aux alentours de 19h. Donc on analyse évidemment toutes les possibilités, tout ce qui peut se passer, tout ce qui va se passer. Mais un message important, vous êtes contents, chers auditeurs, parce que vous écoutez Radio Courtoisie, qui fait beau, vous allez partir en vacances peut-être ce week-end. Mais vous savez que si vous continuez pas à faire des dons, bah, quand vous allez rentrer de vacances, ça se trouve, il n'y aura plus de radio. Parce que les dons ne prennent pas de vacances, malheureusement. Et la radio va continuer à exister pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Mais vous savez que nous ne vivons que de vos dons. Et si les dons n'arrivent plus, eh ben on ne peut plus rien payer. Donc on ferme. Donc aidez-nous et faites des dons.
Chaque année, c'est le même scénario. Les vacances commencent, le quotidien s'arrête et certains choisissent d'oublier leurs engagements. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie. Alors que la gauche veut nous bâillonner et détruire notre liberté d'expression qui vous est chère, votre radio reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'été est la période la plus difficile de l'année. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre et vous préparer une rentrée percutante. 1 euro, rien qu'un euro par auditeur. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Soyez partie prenante de cette résistance. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre, indépendante et fidèle, grâce à vous.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, je rappelle, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, et nous parlons euthanasie parce que le vote définitif se déroule en ce moment à l'Assemblée, et donc nous sommes avec Grégor Pupinck, qui est le directeur général du Centre européen pour le droit et la justice, qui ne cesse de se battre depuis de très longues années contre cette loi inique qui va peut-être passer et être votée définitivement aujourd'hui. Mais vous savez qu'à 18h, c'est également la chronique de Radio Courtoisie. C'est la chronique sur Radio Courtoisie de Rémi Carlu qui va nous parler d'euthanasie.
Et comment ne pas parler d'euthanasie, effectivement, puisque cette journée du mercredi 15 juillet est sur le point de devenir une date noire dans l'histoire de France. Après le mariage homosexuel, la PMA pour toutes et la constitutionnalisation de l'avortement, la légalisation de l'euthanasie signe pour de bon notre sortie des voies de la civilisation. Alors ces lois, nous devons bien sûr les tenir pour caduques. Comme l'a enseigné Saint Jean-Paul II dans Evangelium Vitae, dont nous parlions, elles n'ont pas et ne peuvent pas avoir la force de loi puisqu'elles violent objectivement la justice. Et l'on peut même se demander si l'ordre juridique qui les produit désormais est à la chaîne possède encore quelques valeurs en soi, et si nous y sommes encore tenus. Reste cette question qui devrait tous nous obséder, comment se fait-il que des députés n'ayant pas eu mandat pour cela, et siégeant dans le Parlement éclaté d'une France archipélisée où aucun pouvoir n'est plus légitime, comment se fait-il donc que ces députés puissent voter une loi qui scandalise à ce point notre morale la plus élémentaire et nos principes les plus antiques, sans que rien ne puisse leur être opposé ?
Eh bien dites-nous, comment en sommes-nous arrivés là ?
Eh bien, pour répondre à cette question, il nous faut faire un détour par le passé. Sous l'Ancien Régime, l'ordre juridique français était pluriel. Les velléités législatives du monarque étaient bornées par une foule d'obstacles juridiques internes, les lois fondamentales du royaume, les coutumes locales, les jurisprudences des cours suverraines, les privilèges déjà accordés ou les statuts urbains et corporatifs. Certes, la monarchie dite absolue jouera un peu trop des épaules pour se faire une place prioritaire dans cette jungle juridique, mais le principe de fond restait le même. Sur le plan horizontal, la loi devait bien composer avec beaucoup d'entités parallèles et concurrentes. Et quand bien même elle les respectait, cette loi ne pouvait pas alors disposer comme elle l'entendait, puisqu'elle devait par ailleurs s'inscrire dans un ordre juridique plus général, constitué par le droit des gens, la loi naturelle et la loi divine. Sur le plan vertical cette fois, la loi devait donc respecter des sources du droit qui s'imposaient à elle en une époque sage et croyante. En fait, c'est le statut même de la loi qui était jadis complètement différent. On considère alors que la loi n'est que le reflet d'un ordre moral, religieux et naturel qui lui préexiste et la transcende. Dès lors, la loi positive n'a pas vocation à changer la société, mais plutôt à découvrir, à tâtons, et à décliner, en fonction des circonstances, les principes d'une harmonie supérieure et éternelle déchirée depuis la chute.
Et comme toujours, c'est la Révolution française qui a tout détruit.
Effectivement, les révolutionnaires ont renversé cet édifice juridique millénaire et ont pris parti, pour faire court, avec Jean-Jacques Rousseau, pour qui la loi est l'expression de la volonté générale. Les législateurs deviennent la bouche de la nation que rien ne saurait plus faire taire. C'est une révolution copernicienne du droit qui nous fait entrer dans ce qu'on a appelé le légicentrisme. La loi devient le sommet de la pyramide juridique, en même temps que l'alpha et l'oméga de l'activité politique. Rien ne doit plus pouvoir entraver le législateur dans son activité. Tout ce qu'il vote est jugé supérieurement légitime, sans égard au fond, parce que censé refléter les mouvements profonds de la nation. La qualité du législateur se mesurera désormais à la quantité de lois votées, d'où la suractivité législative qui nous caractérise depuis lors. En fait, la loi a changé de nature et est devenue le levier pour créer un homme nouveau. Il n'est plus question de décliner ici-bas un ordre supérieur, mais de corriger les tares d'un ordre social qui n'est plus perçu que comme un gigantesque système d'oppression pour en émanciper chacun des atomes. Au fond, la loi, c'est la révolution qui se poursuit à chaque instant.
Mais l'essor du gouvernement des juges n'a-t-il pas dépassé cette conception légiscentriste ?
C'est tout à fait juste, l'essor du constitutionnalisme après la Seconde Guerre mondiale a, en apparence, porté un coup sévère à la tradition légiscentriste. Pour que les voies extrêmes du fascisme ne puissent plus jamais être empruntées, on instituait partout un juge suprême qui puisse dire non à la loi au nom de principes supérieurs. Au libre jeu de la démocratie, qui venait de faire la preuve de ses possibles égarements, on préférait faire des juges les sentinelles du temple moderne. Et c'est pourquoi cette loi euthanasie, votée par les députés, devra maintenant passer le filtre du Conseil constitutionnel. Mais quand on y réfléchit un instant, cette rupture est plus apparente que réelle. D'abord parce que les députés ont conservé la prétention légiscentriste de n'être tenus par aucune autre norme que celle qu'ils se sont donnée. Ensuite et surtout parce que les juges leur ont embrayé le pas dans la pente volontariste. Communiant dans le même positivisme juridique, se considérant avec eux comme la bouche de la volonté générale, les juges sont comme des députés au carré. Tous leurs jugements ne reposent que sur des textes positifs, qu'il s'agisse de la Constitution ou des traités internationaux. Jamais il n'est question de bien commun, ce qui supposerait de mobiliser des sources du droit plus substantielles, riches et diverses. En fait, la loi a été partiellement remplacée par la jurisprudence, mais c'est encore la volonté humaine qui veut tout renverser, tout profaner.
Et le droit naturel dans tout ça ?
Eh bien, c'est sans doute le grand paradoxe de nos élites qui disent craindre le retour des heures sombres à chaque instant. Le droit naturel, c'est-à-dire l'idée qu'il existe un droit inscrit dans la nature des choses, a été réhabilité au sortir de la Seconde Guerre mondiale, car c'est à partir de lui uniquement que le nazisme pouvait être véritablement condamné. Mais depuis, ce droit naturel a été complètement oublié. Les droits de l'homme, que ses inventeurs avaient inscrits dans la nature des choses pour les rendre indiscutables, se sont petit à petit dissociés de la loi naturelle, comme l'a bien montré Pierre Manant. On garde le vocabulaire, la dignité, l'égalité, la liberté, mais on évacue leur substance, l'anthropologie, la hiérarchie des fins, le bien commun, et leur interprétation est maintenant laissée à la fantaisie du député ou du juge pour en déduire de nouveaux droits subjectifs. Alors ne nous leurrons pas, ce n'est pas en abattant le gouvernement des juges que la France trouvera le chemin de la rédemption, mais en reconstruisant petit à petit et entièrement notre édifice moral, philosophique et si j'ose dire civilisationnel, c'est un programme pour 1000 ans.
Merci Rémi Carlu. 1000 ans avec le réchauffement climatique, je ne suis pas certain qu'on atteigne un siècle. Grégoire Pupin, je suppose que vous partagez l'avis de Rémi Carlu.
Oui, l'avis et l'analyse. Félicitations pour cette chronique excellente. Non, vous avez très bien analysé comment est-ce qu'on en est arrivé à adopter en fait de tel texte, hein, ou même avoir un système politique qui vient à se prononcer sur ces textes-là. Donc, légiscentrisme, et puis ensuite, vous avez parlé de volontarisme. Ça veut dire quoi, le volontarisme ? C'est l'idée que la volonté est la source de la légitimité. Voilà, donc c'est toute la question du rapport entre volonté individuelle et le bien. Et l'argument des promoteurs de l'euthanasie, c'est toujours de dire, attendez, mais s'il veut mourir, voyez, et donc s'il veut mourir, si telle est sa volonté, qui êtes-vous pour l'en empêcher ? Et toute référence à un bien qui serait supérieur à la volonté individuelle, maintenant, est refusée. C'est le propre de l'individualisme et du libéralisme. On dit c'est la liberté individuelle, aucun argument supérieur peut empêcher ou contredire ce... Il n'y a plus d'autre source de la légitimité que la volonté individuelle. Et ça, c'est vraiment la logique dans laquelle nous sommes maintenant. Et on essaye de se dépatouiller en expliquant, mais regardez, si effectivement on légalise l'euthanasie, eh bien en fait, la société entière va changer. Et en fait, on n'est plus capable de penser la société entière, ce que vous appelez le bien commun. On n'est plus capable de penser et de vouloir une politique par rapport à un bien commun futur, par rapport à ce que l'on souhaite pour la société. Or là, on sait très bien qu'il va y avoir une multiplication de décisions individuelles favorables à l'euthanasie qui vont avoir pour effet de fragiliser et d'abîmer et de blesser profondément la société. Et donc la politique, c'est quoi ? Est-ce que c'est prendre simplement s'incliner devant la volonté individuelle en disant « je veux pouvoir changer de sexe, je veux pouvoir faire ceci, je veux pouvoir faire cela » ou est-ce que c'est être capable de voir quel est le bien de la société et d'adopter des normes en fonction de cela. Et le bien de la société, comme vous l'avez dit, c'est en référence avec ce que nous sommes, la nature humaine, ce dont nous avons besoin pour être heureux.
Alors continuons à recevoir des messages d'auditeurs. L'un nous dit « Le mal, quand il avance, part toujours du bien. » Un autre « L'euthanasie, c'est simple. Ce sont les biens portants qui tuent les malades. » Encore un autre, c'est une question. « Quid du serment d'Hippocrate si la loi est votée définitivement ?»
Alors, il y a deux serments. Il y a Hippocrate et il y a Galien pour les pharmaciens. Les deux sont là. Alors, le texte dit que les médecins peuvent refuser de pratiquer l'euthanasie, mais ils ont quand même l'obligation de désigner un remplaçant. Et donc, évidemment, là, c'est une forme de collaboration très étroite avec l'euthanasie qui les rend directement complices. Donc, leur liberté, le respect de leur liberté et donc du serment d'Hippocrate hein, qui interdit en fait, de pratiquer l'euthanasie, évidemment, on les obligerait à violer leur serment d'Hippocrate.
Alors,
pour les pharmaciens, ouais. C'est pareil, parce que les pharmaciens, ils ont prêté le serment de Galien, qui est aussi interdit hein, de vendre des poisons. Et là, ce qui aujourd'hui est interdit pour eux, sous peine de peine pénale, hein, demain deviendra obligatoire. Et donc là, on oblige les pharmaciens à être parjure. On les oblige à être parjure. La loi les oblige à cela.
Parce que les pharmaciens, il n'y a pas de clause de conscience, c'est une obligation.
C'est une obligation pour tous les pharmaciens de produire, de fabriquer le poison et de le délivrer. Et donc, alors même qu'ils ont tous prêté le serment de ne pas le faire.
Alors, le 30 juin dernier, l'unité des soins palliatifs de Libourne a fermé ses portes. Sans du timing. Alors, les partisans de l'euthanasie disent que la légalisation de l'euthanasie et la loi qui a été votée pour les soins palliatifs sont deux lois complémentaires. Beaucoup disent, si vous votez l'euthanasie, les soins palliatifs vont en pâtir, déjà qu'il n'y en a pas assez, on ne va pas s'emmerder, on va sortir les seringues, on va piquer tout le monde, comme ça, pas de soins palliatifs, ça fait des économies. Où se situe la vérité ?
La vérité, en fait, elle n'est pas dans les paroles, elle est dans les actes. Il faut voir quelle est la politique qui est menée en France. On ferme des unités de soins palliatifs. Ce n'est pas uniquement celui de Libourne, il y en a eu d'autres. Il y a moins de la moitié des demandes, des besoins de soins palliatifs qui sont pourvus en France. Il y a 20% des départements qui n'ont pas de soins palliatifs. Et on n'investit pas suffisamment. On sait que la population va vieillir et le gouvernement s'est simplement engagé à investir 1 milliard sur 10 ans. Donc c'est évidemment insuffisant. Et donc le gouvernement ne fait pas...
1 milliard sur... C'est pardon Grégoire, c'est 1 milliard sur 10 ans ou c'est 1 milliard par an pendant 10 ans?
Alors là, je voudrais vérifier.
Ok, parce que là, de ce que il me semblait, de ce que j'avais entendu, les besoins aujourd'hui pour... Pour aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes qui auraient besoin d'une prise en charge spécifique dans les unités de soins palliatifs, c'était le coût qu'Anne Hidalgo a mis pour nettoyer la Seine, ce qui a raté. Donc on était à 1,7 milliard, quelque chose comme ça. Sachant que la population va cesser de vieillir, les besoins vont augmenter. Donc déjà, si c'est 1 milliard par an, on est en deçà de ce qu'on aurait besoin, de ce dont on aurait besoin aujourd'hui.
Exactement. Et donc on est en deçà, donc l'offre ne répondra pas du tout aux besoins. Donc ça, c'est une certitude chiffrée. Et donc effectivement, euthanasie complémentaire des soins palliatifs pour remplacer. Ça a été dit, il y aura l'euthanasie partout, disponible, y compris dans les maisons de retraite. Par contre, les soins palliatifs, eux, seront peu disponibles, sauf si vous voulez aller dans des cliniques privées, où là, vous pourrez effectivement avoir... ces soins.
Alors,
je viens de regarder là. Apparemment, c'est 1,8 milliard en tout, étalé sur 10 ans.
Voilà.
Donc, ce qui n'est rien. Parce que c'est le besoin qu'on a annuellement avec les besoins d'aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, l'espérance de vie, heureusement ou malheureusement, s'allongeant et les techniques médicales permettant de vieillir plus longtemps, bah, les besoins vont être plus nombreux. Alors je vous propose, cher Grégor, de répondre à des affirmations des militants pro-euthanasie. Ils ont diffusé régulièrement ces derniers jours pour essayer d'alerter surtout les députés qu'ils voyaient commencer à douter et les genoux trembler, une liste d'affirmations destinée à rassurer. Premier point, alors ça c'est mon préféré. L'euthanasie, c'est un soin, c'est l'ultime soin.
Ben, disons que c'est, d'abord, ce n'est pas un soin parce que ça ne soigne pas. C'est effectivement ultime, mais ce n'est certainement pas... Ce n'est pas un soin.
Donc, tuer n'est pas soigné. Bon.
Voilà.
Dommage, c'était pas mal, ça sonnait bien comme slogan. Il est faux de dire qu'un seul médecin décide. Il ne peut intervenir qu'après une procédure collégiale obligatoire.
Voilà, donc ça, c'est parfaitement bidon aussi. J'ai publié une liste qui s'appelle « Les 27 problèmes de la proposition de loi sur l'euthanasie ».
Et je pense qu'en fait, ils vous répondent.
Et là, ils nous répondent en fait, à cette liste. Donc, les auditeurs peuvent se référer, vous la trouverez sur les réseaux sociaux. Elle a été beaucoup partagée. Et donc, non, c'est très clairement un seul médecin. Là, les auditeurs doivent bien prendre conscience du risque. Le médecin n'est pas forcément le médecin traitant. Ce n'est pas le médecin en charge de la maison de retraite. Ça peut être un médecin de passage. Un seul médecin qui rencontre pour la première fois quelqu'un, et ça suffit. Et si cette personne lui demande de mourir, ou si le médecin affirme que cette personne lui a demandé de mourir et qu'elle n'est pas en mesure de faire un papier, le médecin peut déclencher la procédure. Le médecin ne fait que consulter deux personnes de son choix. C'est lui qui choisit qui consulter. Un médecin et une infirmière ou un aide-soignant qui peut être sous son autorité hiérarchique. Et il décide seul. Il décide seul. Et c'est le médecin qui constitue tout le dossier médical, entre guillemets, d'euthanasie, et qui le donne ensuite à la commission chargée du contrôle. Donc le contrôle est fait après la mort sur la base des informations transmises par le médecin. Le médecin ne fait qu'une seule évaluation de l'état de santé de la personne. Il n'y a pas une deuxième évaluation. Il n'y a pas de témoin nécessaire. Les personnes consultées n'ont pas besoin de rencontrer la personne qui demanderait à mourir, ni de faire un examen clinique. Donc, ça peut se faire en 3 jours, je le rappelle, en 3 jours. Pas besoin, il n'est pas absolument nécessaire qu'il y ait une demande écrite de mourir. Et lorsque la demande serait non écrite, ça veut dire verbale ou que sais-je, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de témoin. Donc, un médecin... en l'état, peut affirmer, pourrait inventer une demande d'euthanasie et décider seul.
Une téléconsultation suffit pour demander l'aide à mourir, l'euthanasie, on ne va pas prendre leur terme.
Non. La téléconsultation, elle est envisagée au stade de la consultation. Ça veut dire que le médecin choisit 2 personnes qu'il consulte et cette consultation peut être faite par vidéo.
Une simple demande ne suffit pas pour obtenir l'euthanasie.
Eh bien, si. La première demande doit être faite. Une demande doit être faite à l'écrit, ou si la personne ne peut pas le faire par écrit, par un autre moyen. Donc là, c'est ouvert. Et ensuite, le médecin évalue. Le médecin donne sa réponse. Et là, la personne, effectivement, confirme sa demande. Et donc sa demande, effectivement, elle est aussi simple que ça.
Une personne suicidaire ou souffrant uniquement d'une dépression ne peut pas être euthanasiée ou bénéficier du suicide assisté.
Alors, c'est exact. Il est prévu qu'une personne qui souffre uniquement de troubles psychiques, uniquement, ne peut pas, pour ce seul motif, entrer dans la loi. Il n'empêche qu'une personne suicidaire peut être éligible, entre guillemets, si... elle a d'autres pathologies, comme c'était le cas de l'Espagnol Noelia, qui avait fait une tentative de suicide après un viol, et qui, en raison des séquelles de cette tentative de suicide et en raison de son trouble psychologique, a obtenu l'euthanasie. Et donc pour elle, sa tendance suicidaire, qui est une pathologie, a été un motif lui permettant d'obtenir l'euthanasie, en plus des séquelles de sa tentative antérieure.
Marc Obregon.
Oui, si on fait un peu de prospective, si on imagine qu'un gouvernement attaliste ou philippiste entérine la loi et la fasse progresser d'ici 10 ans, comment est-ce qu'on peut imaginer que la loi évolue dans 10 ans? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elle s'hystérise, en fait, si c'est possible?
Alors, je pense qu'elle a déjà beaucoup de potentiel en elle pour aller plus loin. Bien sûr, il y a la question des mineurs, ça c'est ce qu'ils ont déjà annoncé depuis longtemps, leur intention d'élargir. Je pense que le trouble, en fait, psychique, seul, comme motif suffisant. Mmh. Parce qu'ils vont vous expliquer que, bien sûr, une dépression chronique, ça fait souffrir. Et donc, vont nous expliquer que la vie peut être insupportable lorsque l'on a une dépression chronique. Et que donc, il faut pouvoir accéder aussi à l'euthanasie, qui serait une forme de discrimination entre les maladies. Ça a été dit d'ailleurs largement hein, pendant les débats à l'Assemblée, c'était l'un des points principaux. Les députés ont finalement consenti à ajouter cette phrase excluant les personnes qui souffrent seulement d'un trouble psychique pour essayer de trouver un accord. Mais je pense que c'est le prochain point qui va sauter, et il peut très bien sauter par le juge. Il n'est pas forcément nécessaire de passer par le législateur. Si le juge estime que le trouble psychique est en fait un trouble physique, enfin, équivalent, dans ce cas-là, bien sûr, aucune raison en fait de ne pas permettre l'euthanasie pour ce motif.
Dernière question, Grégoire Pupin, qu'imaginons que la loi est votée définitivement d'ici une demi-heure, que le Conseil constitutionnel ou Emmanuel Macron promulgue avant les saisines ou le Conseil constit décide de passer la loi. Est-ce qu'il y a des recours à l'échelle européenne?
Alors, il y aura des recours, quelques recours sur lesquels on travaille déjà, notamment les recours pour les établissements confessionnels. Donc là, on peut saisir des instances, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Donc là, c'est déjà, bien sûr, on y travaille. Sinon, il va y avoir du contentieux. Ça veut dire que ce sont les familles des victimes de cette loi qui vont agir en justice contre les médecins, contre les hôpitaux. Et là, ça va. Et ben, il y aura plein d'affaires en justice, comme on a pu voir dans d'autres pays. Donc, il y aura du contentieux en France, au niveau européen. On pense par exemple à la Belgique qui a été condamnée parce que un médecin. En fait, il faut quand même que les auditeurs comprennent aussi que les médecins souvent se spécialisent dans l'euthanasie. En Belgique, il y a des médecins qui sont très laxistes et qui le font un peu en série. Et donc, les patients, les suicidaires, ceux qui veulent mourir, vont voir ces gens-là. En Belgique, il y a un médecin qui est responsable d'une association pour l'euthanasie, qui lui-même pratique intensément l'euthanasie, et qui a obtenu un virement bancaire de la part d'une dame française, ou non, d'une dame belge, Madame Mortier, quelques jours avant qu'il la tue par euthanasie, sans que la famille soit au courant. Et ensuite, ce même médecin a validé l'euthanasie qu'il a pratiquée parce qu'il était aussi membre de la commission de contrôle a posteriori. Donc en fait, il cumulait tout. Membre d'association pour l'euthanasie, pratiquant l'euthanasie, et membre de la commission de contrôle de la régularité des euthanasies. Donc vous voyez le genre de système auquel on est. En Espagne, l'affaire Noelia, les médecins qui ont pratiqué l'euthanasie étaient aussi responsables des unités et des organisations de transplantation. Voilà. Donc vous avez à voir en France, si cette loi passe, des complications dans tous les sens, des procès, des procédures de la famille, et bien sûr ça pourra aller à la Cour européenne, qui est quand même globalement assez favorable à l'euthanasie. Voilà. Donc il ne faut pas non plus se faire d'illusions. En tout cas, ce que l'on peut penser, c'est que si le texte est voté, il n'entrera pas en vigueur ou il ne restera pas en vigueur en l'état, parce qu'il y a des dispositions dedans qui sont vraiment exorbitantes au plan juridique.
Merci beaucoup, Grégoire Pupinck. Donc on suit le dossier, comme on dit. On sera vite fixé sur le vote définitif, puisque c'est d'ici 19h, et puis sur l'après, parce que si une loi est votée définitivement, malgré ce que pensent nos camarades francs-macs et tous les progressistes qui peuplent malheureusement cette planète, bah rien n'est irréversible et des choses peuvent changer. Chers amis, on se retrouve d'ici quelques instants, on va parler grande bouffe et comment triompher en festin, ce qui va être sympa.